Il est 8h.
C'est une tentative de coup de force pour s'exonérer de l'examen du Conseil d'État, de l'examen parlementaire. C'est vraiment choquant parce qu'on parle quand même de l'élection présidentielle.
Surprise politique pour Bruno Retailleau et nouveauté démocratique, le vote par anticipation. Le gouvernement veut l'instaurer pour la prochaine présidentielle. Indispensable aux smartphones comme aux voitures, les semi-conducteurs, une pénurie guette, c'est le dossier d'Europe 1. Et puis, un champion du monde de foot qui prouve qu'il a de quoi emmener le PSG sur le toit de l'Europe. Kylian Mbappé, triple buteur et star de la soirée à Barcelone. Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Certains de nos auditeurs vont peut-être découvrir notre invité ce matin, Fatia Agag Boujalad, professeure d'histoire-géographie engagée sur la laïcité, la lutte contre l'islamisme, une femme de conviction pour l'entretien de 8h15.
A tout à l'heure Sonia, 8h01 sur Europe 1. Bienvenue.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les États-Unis avaient montré la voie. 101 millions de votes par anticipation pour élire le président du pays le plus endeuillé au monde par la pandémie. Quasiment 2 votants sur 3 avaient choisi de se rendre plus tôt au bureau de vote ou d'envoyer leur bulletin par la poste. On se souvient du suspense que cela avait ajouté au dépouillement. Voilà que la France, finalement, y songe aussi pour sa propre présidentielle.
Bonjour Claudia Bertram.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1, dites-nous à quoi pourrait ressembler ce vote par anticipation à la française.
Eh bien, très concrètement, les électeurs pourraient voter durant la semaine précédant le scrutin grâce à une urne électronique, ce qu'on appelle en fait une machine à voter. Et ça, ils pourront le faire dans une autre commune que la leur. Les suffrages seraient alors mis de côté et dépouillés en même temps que les autres le jour du vote traditionnel. L'idée, selon le ministère de l'Intérieur, c'est de répondre aux enjeux et aux demandes de modernisation du vote, tout en garantissant la sécurité du scrutin. Ce serait aussi une façon de lutter contre l'abstention.
On le disait, Claudia, c'est une surprise qui fait déjà bondir l'opposition.
Et oui, car tout s'est fait au dernier moment et en toute discrétion. Le gouvernement a déposé un amendement hier au Sénat. Beaucoup s'étonnent que le vote anticipé n'ait jamais été abordé avant cela, surtout lors de l'examen du texte à l'Assemblée il y a quelques semaines. Du côté de l'exécutif, on explique que ce dispositif a été arbitré lors d'une réunion interministérielle récente. Bruno Retailleau, le président des sénateurs LR, y voit lui une manœuvre politicienne. Le chef de file des centristes, Hervé Marseille, qualifie l'amendement d'ovni ou plutôt d'opni obligatoire. Objet parlementaire non identifié. Bref, cet amendement promet des débats houleux dès ce matin et demain au Sénat. La droite majoritaire ne compte pas le laisser passer.
Explication en direct de Claudia Bertram. Rappelons au passage qu'avant la présidentielle, dans 14 mois, doivent se tenir dans 4 mois les élections régionales.
Autre vote hier à l'Assemblée, le projet de loi contre les séparatismes a été adopté. Ça n'est que la première lecture, mais on note un vote assez large au sein de la majorité.
Oui, une seule voix contre parmi les marcheurs. Les Républicains et la France Insoumise se sont opposés au texte, les autres partis choisissant l'abstention. C'était 6 jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, s'en prenait sur Europe 1 à l'islamo-gauchisme et à ses ravages à l'université. Sa collègue, justement en charge des facs, Frédéric Vidal, a repris ce terme, mais seulement 4 mois plus tard. C'était dimanche dernier dans une interview.
Pour elle, l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble. Alors la ministre de l'Enseignement supérieur a demandé une enquête scientifique au CNRS pour définir ce qui relève de la recherche et du militantisme.
Oui, cela fait polémique et voici la justification de Frédéric Vidal hier lors des questions au gouvernement.
Alors oui, en sociologie, on appelle ça mener une enquête. Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme. Mais moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penchent sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité.
Réponse qui n'a pas convaincu l'opposition à gauche, à l'image du député socialiste Boris Vallot.
Manifestement, Mme Vidal n'a pas grand-chose à faire. Il faut dire qu'on l'entend assez peu, c'est un peu un ministre sans portefeuille alors que la jeunesse et les étudiants sont en souffrance, que la recherche est à la peine. Elle crée des diversions. Il y a la liberté académique. Et je crois qu'il faut la respecter et surtout ne pas épouser les fantasmes des uns et des autres.
Le député des Landes, Boris Vallot.
Nouveau point sur la vaccination ce matin en France, sur un total de 3 160 000 injections. On en est à 815 000 personnes qui ont reçu leurs deux doses. Et pour comprendre comment les doses de vaccins sont acheminées et réparties selon les départements, je vous renvoie à l'enquête de Victor Delande. C'était dans le journal de 7h. Vous la retrouvez sur europe1.fr.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé annonce une baisse de 16% sur une semaine, baisse des contaminations à l'échelle de la planète. Mais prudence, le feu n'est pas éteint, dit l'OMS. Et au niveau mondial, c'est aussi une pénurie qui inquiète l'économie dans son ensemble. Il n'y a pas assez de semi-conducteurs. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un composant essentiel pour fabriquer les puces électroniques que l'on trouve dans à peu près tous les objets et outils qui nous entourent.
Et c'est le dossier de la rédaction ce matin avec Aurélien Fleureau et Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Clément, d'abord, à quoi servent ces semi-conducteurs et pourquoi parle-t-on de pénurie aujourd'hui ?
Eh bien, les semi-conducteurs, c'est un peu le cœur de tous nos appareils électroniques. Nos téléphones, nos ordinateurs, nos consoles de jeux vidéo, il y en a partout. Il en faut aussi pour le réseau 5G et pour fabriquer nos voitures. Et avec le Covid, la plupart de ces secteurs ont connu une forte croissance en 2020, selon Aurélien Dutoit, économiste chez Euler Hermès.
On a eu des ventes de smartphones qui ont été plus résilientes qu'attendues. Avec le grand succès de l'iPhone 12 au quatrième trimestre, par exemple, on a un marché du PC qui est retourné à la croissance pour la première fois depuis près de 10 ans, en lien notamment avec la demande des entreprises avec l'essor du télétravail. Et puis également le lancement des nouvelles consoles de jeux de chez Microsoft et Sony.
Et tout ça a contribué à une augmentation rapide de la demande, sauf que l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie au temps long. Il faut environ 4 mois et plus de 200 opérations à l'échelle microscopique pour les produire. Forcément, il y a un temps de latence pour répondre à la demande, et c'est pour ça, par exemple, qu'on ne trouve pas de PlayStation 5 depuis 3 mois.
Une pénurie de PlayStation 5, nous dit Clément Le Saffre. Aurélien Fleureau, en France, plusieurs usines automobiles ont dû ralentir leur production.
Oui, pas un constructeur n'est épargné, hein, pas même Tesla et son modèle intégré avec ses propres usines. Tous le disent, c'est désormais une gestion au jour le jour qui s'est installée. Il faut ajuster la production en fonction des composants disponibles et non plus uniquement en fonction des commandes. Renault a par exemple réduit le travail d'un jour par semaine sur plusieurs sites, notamment en Espagne. Peu de conséquences durables pour l'instant en France, mais certaines heures supplémentaires prévues le samedi ont été supprimées chez PSA à Sochaux et IRN. Même chose à l'usine Toyota d'Onin où la pénurie impacte la version essence de la Yaris, une baisse de production estimée à 6% pour le premier trimestre. Cela concerne des éléments dont les constructeurs ne peuvent pas se passer pour les aides à la conduite, mais aussi le système ABS ou tout simplement la fermeture centralisée des portes.
Ouais, ces puces électroniques sont donc indispensables et on comprend, Aurélien, que les constructeurs ne contrôlent pas leur production.
Effectivement, ils dépendent des équipementiers Bosch, Faurecia, Valeo, Continental, qui eux dépendent des fondeurs, ceux qui produisent ces puces, un marché ultra concentré. Le taïwanais TSMC détient 70% du marché automobile à lui tout seul et les conséquences économiques seront majeures, explique Arnaud Aimé du cabinet Sia Partners.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du chiffre d'affaires en moins pour les constructeurs automobiles. On estime que c'est peut-être même jusqu'à 1 million de véhicules dans le monde qui ne seront pas produits à cause de cette pénurie de semi-conducteurs qu'on imagine pouvoir durer encore un an.
Et dernier élément qui permet de comprendre pourquoi l'automobile est coincée, c'est un secteur qui tire les prix vers le bas et donc qui n'est pas du tout une priorité pour des entreprises comme TSMC qui préfèrent des clients comme Apple ou d'autres géants de la tech qui payent bien plus cher leurs puces électroniques.
On le voit, c'est extrêmement concret. L'enjeu est aussi stratégique, hein, ce marché des semi-conducteurs. Clément, la France a-t-elle un plan pour ne pas être dépendante ?
Oui, mais c'est loin d'être gagné. Il y a 30 ans, l'Europe représentait 40% de la production des semi-conducteurs. Aujourd'hui, l'Asie dévore tout. Taïwan, la Corée du Sud, la Chine et le Japon pèsent à eux 4 70% du marché. L'Europe, elle, est tombée à un petit 9%, ce qui n'empêche pas d'y croire. Le commissaire européen Thierry Breton veut un vaste plan de réindustrialisation pour les semi-conducteurs, comme celui déjà lancé sur les batteries électriques. Pour ça, il pourra s'appuyer sur ST Microelectronics, le champion franco-italien du secteur. La France, elle, cherche des candidats pour relocaliser la production de puces. X-Fab, un fabricant allemand, s'est déjà laissé convaincre il y a quelques semaines. Il voulait investir en Malaisie. Finalement, ce sera en France, 21 millions d'euros de plus pour son usine en Essonne. C'est un premier pas, mais il ne faut pas attendre de miracles. À Bercy, on admet que le problème ne sera pas réglé en un claquement de doigts. Il va falloir beaucoup de temps.
Dossier signé Aurélien Fleureau et Clément Le Saffre. Merci à tous les deux.
Aucune pénurie de buts hier à Barcelone avec ce score de 4-1 pour le PSG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions de football. On disait ici même hier que Mbappé devait prendre ses responsabilités. Alors on ne peut pas affirmer, enfin pas avec certitude, qu'il a écouté Europe 1, mais le message, il l'a entendu.
Golazo, exhibición y candidatura para tantas cosas de Kylian Mbappé. 85 de juego, Barça 1, PSG con hat-trick de Mbappé 4.
Le commentateur de la radio espagnole Cadena Ser, dépité par ce triplé de Kylian Mbappé. Pour la version française, eh bien, c'était Julien Froment sur Europe 1.
Mbappé pour le triplé, l'enroulé ! Oh oui ! Oh oui ! Et voilà ! Il l'a marqué de son empreinte ce match, Kylian Mbappé ! C'est lui le Messi de ce match ! Kylian Mbappé !
A-t-il retrouvé sa voix ? Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
On vous retrouve à Barcelone. Les responsabilités, on peut dire que Kylian Mbappé les a prises.
Ah, exactement, en l'absence de Neymar et Di Maria, Kylian Mbappé a endossé le costume du héros hier soir, 3 buts pour l'histoire. Il est le premier français à réaliser une telle performance dans ce stade mythique du Camp Nou. 2 éclairs de génie, 1 but de renard, voilà comment le kit de Bondy a mis le Barça à ses pieds. Malgré une prestation assourdissante, et bien Mbappé est resté très lucide après la rencontre chez nos confrères de RMC Sport.
C'est très bien, je suis content, voilà, j'ai toujours voulu... Donner le meilleur de moi-même avec le Paris Saint-Germain, c'est un maillot qui me tient à cœur. C'est un match très important pour nous. Voilà, on voulait venir ici et gagner. C'est ce qu'on a fait, voilà, avec la manière. Maintenant, voilà, ce match c'est magnifique, mais on a rien gagné.
Un Kylian Mbappé qui a même reçu les félicitations d'un de ses adversaires du soir, mes coéquipiers en équipe de France, Antoine Griezmann.
Content pour lui, beaucoup critiqué, mais je crois que le Paris Saint-Germain a une future très grande star qui va être au niveau, je pense, de Léo ou de Cristiano. Donc voilà, en profiter tous les jours.
Un match référence qui doit en appeler d'autres. Tel est désormais le défi pour Kylian Mbappé s'il veut s'installer définitivement à la table des plus grands. Même si hier soir, il faut bien l'avouer, il a mis toute l'Europe du foot à ses pieds.
Merci Julien Froment. Allez donc boire une boisson chaude. Vous étiez en direct de Barcelone pour Europe 1. Et d'ici là, vous aurez retrouvé votre voix pour le match retour dans moins de 3 semaines, le 10 mars.
Et 8h12 sur Europe 1. Une nouvelle grande manifestation ce matin à Rangoon, en Birmanie. Alors que les troupes sont déployés dans la ville, selon l'ONU.
Oui, les organisateurs du rassemblement appellent à la libération d'Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement arrêtée il y a 2 semaines et demie au moment du coup d'état militaire.
Venons-en à cette histoire assez incroyable. Un village normand s'oppose à l'homme le plus riche du monde.
Elon Musk, que l'on connaît pour Tesla, qui est aussi à la tête de SpaceX, entreprise qui veut développer l'arme absolue contre les zones blanches. Un réseau internet diffusé par satellite, ça s'appelle Starlink, on dirait le titre d'un film avec vaisseau et sabre laser, sauf que l'une des 3 stations terrestres de ce projet devrait être basée à Saint-Senier-de-Beuvron, commune de 350 habitants dans la Manche, ce qui ne ravit pas forcément les riverains rencontrés par Hélène Terzian pour Europe 1.
Ça se situe là à 60 mètres depuis notre maison. Hein. Ça, c'est les ânes qui vous disent bonjour. On leur a rien dit, hein, parce qu'après...
Jamais depuis leur maison de campagne, Dimitri et Anne-Laure n'auraient imaginé une vue plongeante sur 9 énormes paraboles hautes de 2,70 m.
Nous, à la base, on est venus s'installer là pour profiter du paysage, de l'environnement.
D'un coup, le ciel vous tombe sur la tête.
Avec les antennes d'Elon Musk comme nouvelle voisine, leurs craintes ne sont pas qu'esthétiques. La société en charge de l'installation assure aux jeunes parents que les ondes ne seront pas nocives, mais ils se méfient.
Des associations nous ont dit quand même que c'était des fréquences assez importantes. Ça pourrait être un gros micro-ondes, vous ne pouvez pas rester à côté, quoi.
Clairement, si ça s'installe, tout notre projet de vie est revu. Savoir si on part ou pas.
Depuis 3 mois, le couple peut compter sur le soutien de la mairie et des élus locaux. En tête, le conseiller régional écologiste François Dufour, natif du village.
Il faut absolument que les citoyens de cette commune s'organisent et puissent saisir la justice. Nous devons rester debout, la tête haute, et nous devons nous battre même contre M. Musk.
En attendant, l'élu demande à l'État d'informer la population sur ce projet. Saint-Senier-de-Beuvron, Hélène Terzian, Europe 1.
Allez, on va terminer ce journal en musique avec un hommage à une figure du reggae en France, Tonton David, dont vous connaissez ce tube.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe un message à ton voisin.
Chacun sa route, que l'on avait entendu dans le film culte Un Indien dans la ville en 1994. Tonton David qui disparaît à 53 ans, célèbre aussi pour sa chanson Peuple du Monde.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, 8h14.